Est-ce que y a pas de contradiction dans la Bible?
Alors, il m'a posé cette question juste avant le culte. Je lui ai dit, ok, je voulais être simple et rapide. Non, il n'y a pas de contradiction. Mais Pierre le rapporte, il nous dit qu'il y a des paroles complexes. Nous dit que la Bible n'est pas toujours simple à comprendre, mais elle est cohérente, elle est fiable. Souvent, je me fais la réflexion, mais pourquoi ça ne les dérange pas? Je sais pas, vous vous souvenez de certaines paraboles ou certaines histoires dans la Bible, dans les évangiles. Ils sont tranquillement en train de manger, et tout d'un coup, il y a une femme qui débarque et qui vient sous la table et qui vient déverser de l'eau ou un parfum sur les pieds de Jésus. Et personne n'est choqué par ça. Moi, je suis choqué par plusieurs choses. Déjà, qu'une femme vienne chez moi alors que je ne l'ai pas invitée. Surtout si elle est ma femme. Deuxièmement, qu'elle se met sous la table, c'est quand même choquant. Voilà. Et c'est un peu difficile pour nous à comprendre. Alors, il y a tout élément de contexte à prendre en compte. C'est pour ça que je dis que c'est complexe, des fois, il faut se remettre dans le contexte. Mais elle est cohérente et fiable.
Merci, Michael. La Bible est cohérente et fiable. J'ai été récemment interpellé par un texte, et c'est sur ce texte que j'aimerais que nous réfléchissions ce matin. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 26. Livre des Proverbes, au chapitre 26, et on va juste lire deux versets. Versets 4 et verset 5. Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécillité, de peur de lui ressembler toi-même. Réponds à l'homme stupide selon son imbécillité, de peur qu'il ne se croie sage. Quand j'ai lu ce texte, j'ai senti quand même comme une petite contradiction. Je vous le relis. Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécillité, de peur de lui ressembler toi-même. Réponds à l'homme stupide selon son imbécillité, de peur qu'il ne se croie sage. Je crois, comme Michael, que la Bible ne se contredit pas. Mais là, quand même, avec deux versets côte à côte qui disent, en gros, l'opposé, ne réponds pas selon son imbécillité, réponds selon son imbécillité. Que faire? Comment comprendre? J'ai posé la colle à mes copains avec qui je fais le ménage à l'église. Ça nous a fait bien discuter, mais je n'avais pas fini de réfléchir. J'arrive avec la suite. Que faire? Que faire justement avec de telles personnes, l'homme stupide, l'insensé, dans d'autres traductions, c'est la traduction la plus répandue, l'insensé. Que faire avec eux? Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il ne faut pas répondre? Comment prendre ce texte? À quoi nous encourage-t-il s'il n'y a pas contradiction? Que faire? Je pense que tout d'abord, la première chose à faire, c'est de réfléchir et se poser la question, qui est l'insensé? Qu'est-ce que ça veut dire l'insensé, l'homme stupide? Comme il y a dans les traductions. Dans d'autres traductions, j'ai trouvé aussi le sot, la personne qui est sotte. Ne répond pas selon son imbécillité, selon sa bêtise, selon sa stupidité, sa sottise. Voilà les traductions. On a l'idée. La Bible, le livre des Proverbes, ce passage ne parle pas d'une personne insensée, discrète, qui est un peu bête, mais qui, dans son coin, ne dit rien et ne fait de mal à personne. Je pense qu'elle parle plutôt de quelqu'un qui est là, qui est présent, qui est envahissant, qui nous fatigue par ses paroles répétées. Quelqu'un qui parle sans arrêt et quelqu'un avec qui on ne peut pas parler. On ne peut pas parler parce qu'on ne peut pas en placer une ou parce que les arguments ne sont plus accessibles à la logique. Je ne sais pas comment était ces personnes à l'époque où les proverbes ont été écrits, mais aujourd'hui, je vois bien On en a plein sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur certains sites avec des informations toutes plus incroyables les unes que les autres et qui pourtant sont affirmées et répétées avec force. On en croise dans les débats avec des idées bien arrêtées. Moi, je suis extrêmement fatigué par les interviews politiques avec ce combat entre des journalistes et des hommes politiques qui ne s'écoutent pas. Quand on parle de cet homme insensé, je pense à ça, à ces personnes avec qui on ne peut pas parler. Et en même temps, si je suis honnête, j'ai bien l'impression que dans cette compréhension, pour moi, l'homme insensé, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui je ne veux pas parler. Il y a deux semaines, Michael, dans l'introduction de sa prédication, a repris un extrait du film « Le dîner de cons ». Et c'est un film où, justement, on se moque de l'autre, de celui qui est con, de celui qui est insensé. Sauf que la morale du film, quelque part, c'est qu'on est tous le con de quelqu'un d'autre. On peut penser que c'est l'autre l'insensé, mais bien souvent, il y a quelqu'un qui pense ça aussi de nous. Qui est l'insensé ? Qui est l'homme insensé ? Je pense que pour comprendre qui il est vraiment, le mieux à faire, c'est de retourner vers la Bible qui en parle, plutôt que de rester avec notre idée. Alors moi, je suis pas un pro en hébreu, loin de là, mais il y a des outils super, super modernes et pratiques qui permettent de faire des recherches. Et j'ai vu que ce mot, le mot qui est utilisé ici, il est utilisé uniquement dans le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste et le livre des Psaumes. Et c'est ce qu'on appelle la littérature de sagesse. Il y a des livres comme ça dans l'Ancien Testament qui sont des livres de sagesse. La sagesse, c'est quelque chose qui est important dans la Bible. On parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle du péché, mais la sagesse occupe une place importante dans la Bible. Quelque chose qui est recherché, qu'on doit rechercher. La preuve, plusieurs livres y sont consacrés à cette recherche de sagesse. Et dans le livre des Proverbes, on va même voir la sagesse personnifiée. La sagesse est une personne qui invite, venez vers moi, écoutez-moi. Je pense que la sagesse est moins importante dans notre monde que dans la Bible. Dans notre monde, le succès est important, la réussite. On veut réussir ce qu'on entreprend, pas forcément être sage. On réfléchit à court terme, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche ? Et la sagesse, c'est quelque chose à plus long terme. Quelque chose aussi de plus discret, de plus personnel. La sagesse, c'est une sérénité, être sûr de soi, plutôt que de rechercher le regard des autres. La sagesse, c'est aussi savoir se contenter, savoir ce qui est important, le rechercher sans contenter. La sagesse, c'est savoir quoi faire face à la vie, voir à long terme, prévoir les conséquences de ce qu'on va faire et du coup, agir en ayant prévu. Je vous invite vraiment à lire la littérature de sagesse et par exemple le livre des Proverbes. C'est rempli de petites pensées comme des petites touches. Moi, ça me fait penser au tableau de peinture impressionniste. Quand on regarde de près, on voit plein de petits traits, de petites touches. Ça n'a pas grand sens. Et quand on recule, ça dresse un tableau qui prend sens. Et toutes ces petites maximes dessinent ce qu'est la sagesse, ce qu'il faut rechercher. Et en regardant comme ça, qui est l'insensé ? on arrive à en voir un portrait. Portrait qui se construit en opposition de l'homme sage, mais qui a quelques caractéristiques qu'on retrouve. L'homme insensé, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui n'aime pas la connaissance. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Il ne recherche pas la connaissance. Il aime parler. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Il a besoin de parler pour dire ce qu'il a en tête. C'est ça son but. Et ce n'est pas toujours vrai ce qu'il raconte. Celui qui répand la calomnie est un insensé, nous dit le livre des Proverbes. Il parle beaucoup, et ce n'est pas toujours vrai, et il croit avoir raison. La sécurité des insensés les perd. Il croit avoir raison, et c'est cette certitude d'avoir raison sans se remettre en question qui le perd. Et plus encore, la conclusion de ce portrait, c'est que l'homme insensé ne craint pas Dieu. On retrouve dans un psaume « Que tes œuvres sont grandes, éternelles, que tes pensées sont profondes, l'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend pas garde. » Voilà le portrait de l'insensé. Quelqu'un qui est sûr de lui, tellement sûr qu'il parle au lieu d'écouter et qu'à force de parler à tout le monde, il parle même à Dieu au lieu de l'écouter. Et face à cet homme insensé, on est invité à deux comportements. Proverbe 8, verset 5, adresse cet appel : stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. On doit changer, on doit rechercher l'intelligence, on doit rechercher la sagesse. Et il y a cet appel pressant. Et pour tous également, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. L'insensé doit rechercher la sagesse, mais on doit éviter de marcher avec les insensés. Et du coup, ça me ramène vers notre court texte qui nous disait qu'à la fois il fallait répondre à l'insensé et à la fois ne pas y répondre. Et si on cherche, on lit ces versets à la recherche d'une version simple, d'une réponse simple, je parle avec un tel et je ne sais pas quoi faire, je vais trouver un verset biblique qui va me dire ce que je dois faire, ben on marche pas, ça ne marche pas. Parce que la Bible et le livre des Proverbes en particulier ne vient pas donner des réponses toutes faites. Il vient faire réfléchir et connaître ce que Dieu veut que nous fassions. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que ce qui est important, moins que ce qu'on fait, c'est ce qu'on cherche à faire. Quel est le but de notre action? Et si les deux premières moitiés de versets semblent en opposition, la fin des deux versets que nous avons lus diffère. Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur de lui ressembler toi-même. Réponds à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur qu'il ne se croie sage. Une autre traduction, la Bible en français courant, traduit « Ne réponds pas à l'insensé en imitant sa bêtise pour ne pas devenir toi-même semblable à lui. Réponds à l'insensé comme le mérite sa bêtise pour qu'il ne s'imagine pas être un sage. » En fait, quand on est devant un insensé, il y a deux questions à se poser. Qu'est-ce que ça va faire pour moi et qu'est-ce que ça va faire pour lui ? Il faut penser à soi. D'abord, c'est le premier des deux versets que nous avons lus qui est placé d'abord. Parce que la stupidité est contagieuse, nous dit la Bible. En discutant avec un insensé, on peut se retrouver pris dans son piège. Et emporté par la discussion, dire nous-mêmes des bêtises. Il est nécessaire de savoir se préserver, de savoir quand ne pas entrer dans des disputes où on ne sortira pas grandi, au risque d'être nous-mêmes emportés. Penser à soi pour éviter la bêtise et penser à lui, qu'il ne se croit pas sage, mais lui donner une chance de changer en lui montrant quelle est sa stupidité. Alors, le but, c'est pas d'humilier la personne qui se trouve en face de nous. L'humiliation produit la vexation, le ressentiment, ça va nous créer des ennemis. Ce ne serait pas sagesse que de chercher à se créer des ennemis, ce serait plutôt une manifestation justement de la stupidité. Mais pensez à lui, et par nos réponses, l'inviter à changer, ne pas acquiescer à ce qu'il dit. Et donc, ces versets nous invitent à produire un comportement, non pas sur des règles toutes faites, K.A., je suis devant quelqu'un, je fais ça, mais à réfléchir à ce qu'on veut produire, à ce qu'on peut produire. Et ça demande du discernement pour savoir dans quel cas on se trouve, savoir saisir l'opportunité et savoir reculer aussi s'il n'y a pas d'opportunité. Avoir du discernement, savoir quoi faire quand on se trouve dans une situation. Ce n'est pas toujours facile. Heureusement, la Bible nous donne un exemple, l'exemple parfait, si je puis dire. Jésus est la sagesse incarnée. On disait que dans le livre des Proverbes, il y avait la sagesse personnifiée qui invite « Venez avec moi, je vous enseignerai la sagesse ». Jésus est cette sagesse divine incarnée. Et il invite, suivez-moi. Alors suivons-le. Suivons-le, on le voit dans les évangiles avoir des interactions avec plein de monde, se retrouver dans des situations conflictuelles ou des situations où il fait face à des gens qui n'ont pas compris. Et il réagit différemment dans les cas. Et j'ai relevé plusieurs exemples que je vous partage. En Marc 11, il rencontre des chefs religieux qui veulent le piéger et qui lui demandent les miracles là que tu fais, les guérisons que tu fais, même le jour du sabbat. De quelle autorité fais-tu ça? Qui c'est qui t'a donné le droit? Réponds-nous. Et Jésus refuse de leur répondre, il garde le silence. Il leur pose d'abord une question. Dites-moi, vous, Jean-Baptiste, c'était qui? Vous ne voulez pas répondre? Ben, moi non plus, je ne répondrai pas. Il a très bien vu qu'il s'agissait d'un piège. Quel que soit ce qui répond, la réponse lui attirera des problèmes. Alors il refuse de répondre. Il refuse d'entrer dans le jeu, il refuse de faire monter la voix et il les laisse avec leurs questions bêtes et avec aussi leur incapacité de se positionner sur le monde autour d'eux et sur le ministère de Jean-Baptiste. Parfois, face à la stupidité, garder le silence, c'est une attitude de Jésus. Une autre attitude, face à la stupidité, rester intelligent. En Matthieu 22, toujours de ces religieux viennent le voir pour le piéger avec en plus des officiels et qui lui demandent « Faut-il payer l'impôt à César ?» Là encore, il n'y a pas de bonne réponse. S'il répond oui, il est du côté de l'occupant, il n'est pas à honorer Dieu seul puisque César veut être un dieu. Et s'il dit non, eh ben là, il y a les responsables là, qui vont l'emmener et qui lui disent qu'il appelle à l'insurrection. Pas de bonne réponse. Il aurait pu garder le silence, mais là, il sort une réponse qui va élever le débat. Rendez donc à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. La vraie question qu'il faut se poser, C'est est-ce que tu rends bien à Dieu ce que tu lui dois? Est-ce que vous qui m'interrogez, vous mettez Dieu à la première place? Face à cette question stupide qui cherche à le piéger, Jésus fait appel à l'intelligence, il élève le débat. Troisième cas, troisième façon de réagir de Jésus, parler avec autorité. Je repense à ce moment en Marc 16, où Jésus annonce à ses disciples ce qu'il va faire, qu'il est en route pour Jérusalem, qu'il va souffrir, qu'il va mourir. Et là, il y a Pierre qui le prend à part et qui lui dit non, ça n'arrivera pas. Puis les évangiles sont courts, j'imagine que si Pierre l'a pris à part, c'est pour réfléchir, on va trouver une solution, c'est vrai que les gens t'en veulent, mais on va trouver un moyen de se cacher. Enfin, ce n'est pas dans l'évangile. Mais ce qui est dans l'évangile, c'est Jésus qui répond « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et là, face à quelqu'un qui n'avait pas compris, parole d'autorité, non. Une autre façon de réagir. Je vous en offre une quatrième, où Jésus sort une parole, et quand je lis ce récit, je trouve qu'elle est un peu dure, parce que la personne qui est en interaction avec lui se sent bête. Il y a ce père-là qui vient avec son enfant épileptique, et puis on voit après que cette maladie, en fait, elle est causée par un démon, et les disciples, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Jésus arrive, et le père lui dit, « Mais toi, Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. » Et Jésus lui répond, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Quand j'entends ça, je me dis que ce n'était pas super sympa pour le père qui porte ce fardeau et qui se prend cette parole un peu moqueuse, finalement. Mais en fait, Jésus savait ce qu'il faisait, parce que cette parole, justement, provoque chez ce père un sursaut, et il dit, « Oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité, aide-moi à croire. » Et c'était la bonne réponse, puisque Jésus l'aide à croire, guérit son fils. Mais voilà, quatre attitudes, et je suis sûr qu'en lisant les évangiles, on peut en voir d'autres, peut-être vous pensez à d'autres, mais quatre attitudes finalement assez différentes que Jésus peut avoir face au manque d'intelligence, à la stupidité de ceux qu'il a croisés. Et j'aimerais faire remarquer que si nous croyons que Jésus est parfait et fait toujours les choses avec justesse, il n'y a pas toujours eu le même résultat. Il y en a qui ont eu des résultats positifs. Pierre est devenu ce grand apôtre. Ce père a trouvé la foi et a vu son frère guéri. Mais les chefs religieux sont restés dans leur bêtise. Et ce n'est pas plus que... C'est pas ce que nous faisons qui fait changer les gens. Et le meilleur exemple, c'est que ce n'est pas ce que Jésus a fait qui a fait changer les gens. Il leur a parlé de la bonne façon. Certains ont saisi cette réponse pour progresser. Et d'autres l'ont raté. Je disais tout à l'heure que on est tous le con de quelqu'un. Je crois que devant Jésus, on est tous un insensé. C'est facile de se comparer avec un autre et de remarquer la bêtise qu'il peut avoir. Mais devant Jésus, on est quelqu'un qui est dans la folie. Devant Dieu, on parle avec assurance, alors qu'on ne sait rien. On vit selon notre idée, sans écouter Dieu, sans mesurer les conséquences de ce qu'on fait. On se fait confiance, on fait confiance à notre jugement alors qu'on est perdu. Cette parole du proverbe que j'ai lue tout à l'heure, elle s'adresse à chacun d'entre nous. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Et l'intelligence, c'est se tourner vers Dieu avec humilité pour apprendre. C'est cesser le discours de ceux qui savent et qui parlent avec assurance pour se taire et pour écouter celui qui sait, le seul qui sait. Et Jésus est venu sur terre, il a marché parmi nous, il est venu sur terre comme la dernière chance de trouver la sagesse. Il a répondu aux insensés, nous en avons témoignage, il a montré le chemin. Un chemin qui passe par la croix, par l'aveu de notre impuissance, par l'incapacité de s'en sortir nous-mêmes, l'obligation de nous reconnaître indignes devant Dieu, de demander pardon pour notre rébellion et d'accepter la main tendue. Sortir de la folie et prendre le chemin de la sagesse. Quand nous lisons ce texte, souvenons-nous que nous sommes l'homme stupide, l'insensé. Et une fois que lui avons emboîté le pas, que nous marchons à sa suite, eh bien, suivons son exemple, en passant à la suite de ce qui nous est demandé dans les proverbes. Suivre ces deux directions, éviter de tomber nous-mêmes dans la stupidité, d'y retomber, et puis de tirer vers le haut ce que nous pouvons. Offrir cette possibilité en sachant que ça ne marche pas toujours, que ça ne nous appartient pas. Il faut apprendre à discerner entre les deux, y aller, ne pas y aller. Et je repense à cette parole que Paul écrit aux Colossiens. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. » C'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que disciples du Christ. Sortir de notre bêtise et ensuite parler avec sagesse, nous taire, mais pour pointer vers la vraie sagesse, celle de Jésus-Christ, cette sagesse qui sauve. Je demandais, en introduction de cette prédication, s'il y avait des contradictions dans la Bible. Alors oui, il y en a pour celui qui cherche des réponses toutes faites. Celui qui ne veut pas réfléchir. Mais si on cherche à comprendre et qu'on regarde à l'objectif, là où Dieu veut nous amener, alors là, on va bien plus loin. Dieu nous amène plus loin, il nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, il nous amène à voir notre propre bêtise. Il nous invite à en sortir à travers le salut en Jésus-Christ, afin que nous puissions marcher dans la sagesse et la répandre autour de nous comme étant le message de notre Maître. Je vous invite à la prière. Seigneur, quand on se compare entre nous, nous trouvons toujours facilement des façons de nous dire qu'on est vachement bien. On trouve toujours pire que nous. Seigneur, j'aimerais te prier que tu nous apprennes l'humilité. J'aimerais te prier que tu nous donnes de regarder à toi, de comprendre nos limites, de comprendre combien nous sommes petits et d'arrêter de nous croire arrivés pour nous mettre à ton école. Vraiment, Seigneur, apprends-nous cette unité, cette humilité. Et je te prie que nous sachions t'écouter et suivre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions parce qu'il est venu sur terre, parce qu'il est venu nous offrir une porte de sortie de cette bêtise, parce qu'il a payé le prix que nous pouvons oublier ce que nous avons fait et qui nous retient en arrière pour marcher avec toi. Sois béni, Seigneur, pour la main que tu nous tends. Sois béni pour ton amour que nous ne méritons pas. Sois béni, Dieu trois fois saint. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.